L'équipe de Grand Témoin est heureuse de vous retrouver. Elle vous retrouve avec Maker Mwangu, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en RDC. Monsieur le ministre, merci d'être venu.
Merci beaucoup de m'avoir aussi invité. Je donne l'occasion de m'adresser à vos auditeurs, Radio Capi.
Alors, nous essaierons de savoir ce que vous avez fait avant d'être ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans le gouvernement Gizenga. Et bien entendu, nous parlerons de cette grosse responsabilité, celle d'être le numéro un politique d'un aussi grand secteur de la vie nationale. Les enfants congolais, où qu'ils se trouvent, ont les mêmes aspirations, recevoir une éducation de qualité.
L'éducation est primordiale pour une nation, et puis je demanderai au gouvernement, aux parents, de mettre en œuvre des instruments scolaires qui sont capables d'améliorer les niveaux scolaires des élèves, surtout au Congo. Il y a par exemple le matériel didactique, les matériels de laboratoire, ça manque souvent dans beaucoup des écoles.
Je m'appelle Martine Doba, j'étudie au collège Bosembo. Ce que je peux demander au gouvernement, d'améliorer seulement le paiement de professeurs, parce qu'il y a d'autres professeurs qui ne donnent plus cours bien, parce qu'on ne les paye pas bien.
Moi je m'appelle Monique Chela, j'étudie à l'Institut Georges Simenon. Il faut qu'ils s'occupent d'abord de nous, et donc on doit travailler dans des très bonnes conditions.
Nous reviendrons après sur ces souhaits des enfants congolais. Ils pourraient aussi le dire en swahili, en kikongo, en lingala ou en chiluba. Ce sont des langues que vous maîtrisez d'ailleurs, monsieur le ministre.
Oui, je parle à toutes les quatre langues nationales, les unes mieux que les autres. Le français, je parle pour les langues nationales, je parle les swahili, les chiluba, je parle les lingala, je parle les kikongo. Mais Kikongo, moins bien que les trois autres.
Donc on peut dire que Kikongo, vous bricolez un peu.
Je bricole, mais je comprends. Même celui du bas Congo.
Maker Mwangu, ministre de l'EPSP, a été lui-même à l'école, des études primaires et secondaires au Kasaï occidental.
J'ai commencé la première primaire à Lubumbashi. C'était au collège Saint-André, à la commune de Kenya.
À la Kenya, et puis vous êtes parti à Ilebo.
Ilebo, c'est là que j'ai fini. Ouais. C'est drôle, hein, disons, mon père était un enseignant aussi. Et nous sommes retrouvés à Lubumbashi parce qu'il était aussi suivre les cours là-bas. Mm-hmm. C'était un ancien inspecteur. Et voilà, comme il voyageait beaucoup, j'ai suivi dans tous ces parcours.
J'ai commencé l'école primaire.
Oui, les mutations, j'ai commencé l'école primaire à Lubumbashi.
Et puis l'école secondaire.
L'école secondaire, j'ai fait presque la même chose. J'ai commencé ici à Kinshasa, parce qu'il était ici aussi en formation à l'UPEN, actuellement à l'IPEN. Juste après, je suis rentré au Kasaï.
Ah, d'accord. Et dans quelles conditions avez-vous étudié un enfant? L'enfant d'un enseignant, à cette époque-là, les conditions étaient comment?
On se posait même pas de questions sur les conditions de vie parce que, presque, je ne dis pas que tout était réuni, mais on vivait normalement. Normalement, c'était pas une famille très aisée, mais une famille moyenne ou une famille nombreuse, moyenne, mais les conditions étaient réunies pour qu'on étudie normalement. Parce que les parents étaient assez sévères. Vous voyez, les fils d'un enseignant, généralement,
ils grandissent sous la sévérité.
Sous la sévérité des parents, c'était ça. Il faut lire les cours après les cours. Il faut suivre, lire les leçons. Il faut jouer. Ça, c'est que j'ai beaucoup apprécié aussi des parents, c'était ça.
Jouer.
Oui, le soir, en tout cas, ils m'obligeaient presque d'aller faire du sport. Et j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui.
Alors les amis qui nous écoutent à Kasapa doivent être contents en ce moment parce que vous êtes aussi un Kasapa.
Kasapa, je suis Kasapa.
Qu'est-ce que vous avez fait là-bas?
J'ai fait les relations internationales à l'université de Lubumbashi.
Est-ce que vous avez fait aussi des études à l'étranger, non?
Oui, jusqu'après Lubumbashi, je suis allé à la Sorbonne, à Paris, où j'ai fait un perfectionnement en relations économiques internationales, en coopération et développement.
Le grand témoin.
Grand témoin aujourd'hui qui vous fait découvrir Maker Mwangu Famba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est pour la toute première fois que vous entrez dans l'exécutif, mais dans les 46 ans que vous venez de totaliser ce mois. Vous avez un long parcours, hein. Vous avez été conseiller au cabinet du chef de l'État, vice-gouverneur au Kasaï occidental aussi.
Oui, oui, j'étais donc, avant d'aller au parti comme secrétaire général adjoint du PPRD, j'étais conseiller au cabinet du chef de l'État.
Et vous occupiez de quoi?
Là, je m'occupais des relations avec le Parlement. Au cabinet du chef de l'État, il y a les conseillers principaux qui dirigent les collèges. Moi, j'étais juste un conseiller.
Alors, vous pensez que ce parcours a pesé dans votre choix comme ministre ou c'est plutôt votre activité politique?
Peut-être l'un, peut-être l'autre, peut-être les deux, je ne sais pas exactement, mais ça, c'est à la discussion du chef.
Alors, Makar Mongou, ministre de l'EPSP depuis le 5 février dernier, nous allons retrouver notre espion, non, j'allais dire notre confrère, Alain Irung. Alain Irung, dans les couloirs du cabinet même du ministre Makar Mongou.
Bonjour monsieur, vous vous appelez comment?
Monsieur Guy Marfouta.
Vous avez quelle fonction ici?
C'est le secrétaire particulier du ministre.
Pouvez-vous m'aider à faire le tour du ministère?
Pas de problème, je vous en prie.
Ok, allons-y. Alors là, on sort du bureau de monsieur Guy. Monsieur Guy, je n'entends plus le bruit du split. Le courant vient de partir?
Oui, avec coupure d'électricité.
Et ça arrive souvent?
On avait quelques problèmes qu'on tente de résoudre et je pense que d'ici là, on va s'atteler à que la solution définitive soit trouvée.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici?
Depuis l'investiture de l'actuel ministre, hein, ça dure un mois et demi, je crois. Un mois et demi.
Comment vous le jugez?
C'est un homme intègre, objectif, hein, qui fait un effort de mettre tout le monde en confiance pour produire le travail qu'on fait.
Quel reproche pouvez-vous formuler à ce ministre?
C'est un monsieur qui travaille beaucoup. Il arrive à 7h30 pour quitter le bureau à 19h au plus tôt. Donc je pense qu'il doit quand même aussi penser à lui-même.
Exact. Nous descendons les escaliers avec monsieur Guy. Voilà. Combat, c'est le CECOP. Je suis avec monsieur le directeur du CECOP. Nous avons du mal à passer dans les bureaux parce que c'est très étroit.
Les lieux dans lesquels nous nous trouvons est trop étroit. Nous sommes en train de passer entre les cartons, entre les appareils. Il faut avoir les vertèbres d'une chenille pour passer.
Au revoir, monsieur le directeur.
Au revoir.
Nous sortons dans le parking du ministère. C'est le bus du ministère?
Effectivement.
Je vois le chauffeur. Bonjour papa.
Ah, bonjour.
Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Martial Ambrezolo, chauffeur des minibus. Souvent, avec les embouteillages, nous rencontrons en cours de route et nous arrivons souvent à 8h, 8h15. Aussi, le gouvernement permet des moyens possibles, on peut nous ajouter soit une camionnette pour m'épargner souvent moi-même, parce que le minibus est chargé et le routing est très long.
Merci beaucoup papa et bon travail.
Alors nous ici le travail continue, merci Alain Young, retour au studio donc, monsieur Makar Mongou, comment jugez-vous les collaborateurs que vous venez de retrouver à votre cabinet à l'EPSP?
Oui, enfin, les collaborateurs, c'est moi-même qui les ai choisis, hein, suivant mes critères. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Donc, je fais par tous les moyens d'avoir des gens qui pensent presque de la même manière. Pas de la même manière, mais enfin, des gens qui, avec qui la confiance, le climat du travail peut être très bon.
Alors, il faut dire que ces collaborateurs-là ont aussi des problèmes, mais est-ce que vous pensez aussi à eux? On a entendu tout à l'heure, là, le chauffeur dit, mais si on peut avoir encore une camionnette, c'est comme le répondez.
Oui, on en aura, je crois qu'on va tout faire. C'est un papa que j'aime bien, il est vraiment intègre, papa. C'est rare quand même de trouver des gens comme ça, hein. Quand vous lui demandez d'aller acheter, j'ai fait un petit témoignage sur lui, quand vous lui demandez d'aller acheter les carburants, il vous remet l'unité. Donc il fait très très bien son travail, c'est l'occasion là de lui faire quand même, de lui rendre honneur. Bon, je vais tout faire, on verra, hein. Donc d'ici là on pourra avoir un deuxième minibus et peut-être plus pour lui permettre effectivement de faire les longs trajets à travers la ville de Kinshasa.
Le grand témoin.
Grand témoin qui reçoit Makar Mongou, ministre de l'EPSP. Monsieur le ministre, nous avions promis de parler aussi du niveau et des conditions d'études en RDC. Nous y arriverons après un morceau de musique, mais c'est aussi à vous de nous dire quel chanteur congolais vous impressionne.
Ah, je sais pas, j'aime tous les... J'aime la musique. Les Congolais chantent très très bien. Mais particulièrement, j'aime beaucoup Papa Wemba.
Pourquoi?
Bon, nous sommes de la génération Papa Wemba, donc quand il a commencé, bon, je sais pas, mais bon, j'aime beaucoup Papa Wemba.
Alors, vous l'aimez de quelle façon? C'est-à-dire que quand vous voyez une affiche, concert, vous dites, ah, je vais aller?
Non, je suis pas de cette vie-là, donc je suis celui qui écoute la musique. c'est tout. C'est pas que je suis un fiant des concerts, des productions, de Papin Banou. Mais quand je vois un CD, où je suis vraiment un faible pour ça, les amis le savent.
Ouais, y a aussi vos proches qui le savent, et vous confirmez un peu ce qu'ils nous ont dit sur vous. Et nous avons justement dit à Papa Wemba que vous l'aimiez beaucoup. Lui-même est passé aussi dans cette émission. Il s'est réjoui de l'amour que vous lui portez et vous le retourne avec un conseil.
Oh ben bon, moi je demande pas mieux. Vous savez, mes 4 ans, ça vient du cœur. C'est que je sais qu'il a grandi avec la musique de Papa Wemba. Aujourd'hui, qu'il est devenu son excellence, monsieur le ministre, on lui doit du respect, et qu'il essaie de travailler parce que l'enseignement, c'est quelque chose de très, 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 très noble, et que l'enseignement primaire, c'est pas du tout donné à n'importe qui. Donc, comme on a fait un choix sur lui, alors il faudra qu'il mette de l'œuvre dans l'enseignement, surtout l'enseignement primaire. Quoi.
Alors, Makar Mongo, Papa Wemba suivra cette émission peut-être à partir de Addis Abeba où il se trouve maintenant, mais qu'est-ce que vous pourrez lui dire en ce moment?
Moi, je suis ému là, vous m'avez fait vraiment une agréable surprise que Papa Wemba, je ne savais pas que vous l'aviez contacté, Papa Wemba qui parle de moi, ça me fait énormément plaisir. Bon, les vœux de Papa Wemba, c'est les vœux de tous les parents, c'est les vœux du président de la République, Joseph Kabila, c'est les vœux du Premier ministre, donc... Nous sommes là, ce n'est pas un problème seulement du ministre, de l'EMP, c'est des Papa Wemba, c'est de vous-même, c'est de tout le monde.
Oui, nous y reviendrons d'ailleurs. Alors, pour sceller un peu cet amour avec Papa Wemba, il vous a proposé une de ses chansons.
Ça serait la chanson que tout le monde aime, que tout le monde ne peut pas s'en passer de ça, c'est la chanson Maman. Parce que Maman incarne un peu tout ce que nous faisons ici sur Terre, elle est incarnée par la Maman. Quoi.
La chanson Maman de Papa Wemba est en train de venir. Vous aussi, vous pouvez la proposer à qui? Votre mère, malheureusement, n'est pas sur Terre maintenant. Hein.
Moi, il y a une phrase dans cette chanson-là qui est vraiment merveilleuse. Quand Papa Wemba dit à sa mère, si tu étais ministre de l'Éducation. Oh, c'est merveilleux.
Voilà, alors ça, on va écouter pour les enfants congolais et toutes les mères congolaises.
Mama soko zara siri kaka na bomoi, mbele na sisi uzaki kama suswana. Shamoni mbaji mama lila yosema, shamoni mbaji yola la 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 muka, shamoni mbaji ata mbia tungi sanga. Soki na teli uzara kipo tana somosa, mata yote na kuma abando nimu, reko pause na yona kote sana nyamu. Atana delina nyango dolo sema Nyango na jeze ni ase moyo mama jendo Ele kia nivele ya mama mo kamai Ele kiba esete nyango ya bako kote umana liya Ata mafuta toma kie tarakise Kasi yanko ele kati mosu nilembi Ata yonke na apesi esu nama Nyanko mako liya katako na tepeli sa monoko ye Maje aya mameza majile kepe minyambal Kasi ele kiba le soba ne pala kote soba pesama Mama sojo zara kisa pana bomoi Mele na kenji basa ya mili felizasyo Mele basa kela zizo nyo kwa basa na Mele kutu kutu kare azalise Thank
Et ça tombe très bien parce que vous venez au fait de totaliser 46 ans ce mois-ci.
Non mais c'est, je suis ému, hein, je suis un concours de circonstances merveilleux. Et mais je peux faire juste un petit commentaire si vous permettez.
Oui, allez-y, monsieur le ministre.
Quand papa m'a dit si sa mère, hein, si il était possible que sa mère soit ministre de l'éducation,
ouais.
C'est un vœu terrible. Mais moi je pense que c'est un vœu et un message qu'il arrive à lancer aussi à toutes nos mamans. Cette maman, pour qu'elle soit ministre de l'éducation, si la maman de Papa Wemba trouvait que sa mère devait être ministre de l'éducation, c'est parce qu'elle a donné, elle a transmis certaines valeurs. Ou Papa Wemba trouvait que cette, sa maman, Maman Yondo, pouvait lui donner certaines valeurs. Il faut que nos jeunes filles apprennent qu'elles sont le socle de la société, le socle de transmission de la vie, et transmission aussi de la culture, la transmission de beaucoup de vertus.
La zona de ahí, yo y Hondo, fotocopina yo.
Merci pour ce morceau qui a plu à Monsieur Macaire Mwangu. Alors, grand témoin sur Radio Okapi, vous le savez, notre invité, le ministre de l'EPSP. Cette année, plus de 270 000 finalistes du secondaire se présentent aux examens d'État. Ceux qui réussiront obtiendront leur diplôme. Mais en général, la qualité de l'enseignement et celle du diplôme en RDC inquiète depuis bientôt 16 ans. Alors, voyons d'abord l'état de ce secteur avec notre confrère Claude Kianza.
Le budget 2006 de l'éducation nationale en RDC représentait 7,5% du budget national, soit 165 millions de dollars américains pour l'an 2006. Comparé à l'enveloppe consacrée à l'éducation nationale en 2005, il y a eu en 2006 une augmentation de 9 400 000 dollars américains, soit 17,5%. Mais ce montant paraît dérisoire comparé aux autres pays d'Afrique ou d'Europe. Selon les syndicalistes Jean-Pierre Kimbuya, le Rwanda et l'Ouganda consacrent 30% de leur budget national à l'éducation et 40% pour le Sénégal. Quant à la France, elle consacre 50% de son budget national à l'éducation. Pour avoir une idée, cela représente 50% des centaines de milliards de dollars de son budget national. Quant au salaire des enseignants, le mieux payé est celui de Kinshasa, possédant un diplôme de licence. Il touche 36 000 francs congolais, soit 65 dollars américains, contre 20 000 francs congolais, soit 37 dollars américains, pour un enseignant de Lubumbashi avec le même diplôme. Par contre, l'enseignant le moins bien payé est celui de l'école primaire, possédant un diplôme appelé D4 avec un salaire de 10 000 francs congolais, soit 18 dollars américains. Concernant le nombre total d'élèves en RDC, il est de 7 millions, selon le secrétaire général au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, M. Daniel Lukubama. Pour leur part, les enseignants sont évalués à 230 000 à travers tout le pays, selon la même source. D'autres pays comme la France possèdent 1 million d'enseignants pour une population presque égale à celle de la RDC. Pour ce qui est de la qualité de l'enseignement, elle a fortement baissé, selon M. Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles catholiques Sinecat. Ceci suite à la détérioration des conditions sociales aussi bien des enseignants que des parents d'élèves. Pour rappel, le taux de réussite aux examens d'État en 2006 était de 68% contre 63% en 2005, soit une amélioration de 5% par rapport à 2005.
Alors, monsieur le ministre, comment faire pour redonner visage à l'enseignement primaire et secondaire? Comment faire pour que les enfants aujourd'hui étudient comme vous aviez étudié?
Ouais, c'est votre jeu, comme je viens de le dire, c'est le jeu du président de la République, c'est le jeu de tout le monde. Parce que nous avons atteint un niveau très très bas. Peut-être que le tableau tel qu'il est présenté par le reporter n'est pas... Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à dire. La situation est catastrophique. Mais elle est catastrophique. Est-elle catastrophique seulement pour l'éducation ou elle est catastrophique en ce qui concerne la santé? Est-elle catastrophique en ce qui concerne les infrastructures? Le problème est très profond. Il faudrait qu'on tout le monde, j'ai essayé de vous le dire, qu'il faut que tout le monde se mette ensemble, qu'on soit conscient des difficultés et que maintenant, tout le monde participe à la recherche des solutions.
Est-ce que dans le cadre de l'élaboration du budget, vous êtes en train de penser à augmenter, n'est-ce que le budget de l'éducation maintenant?
Certainement, certainement, c'est un acquis. Le Premier ministre l'a dit, le budget sera substantiellement augmenté. Mais comme je le dis toujours, quand on vous dit on va augmenter de 7%, il passe à 15 à 20%. Les 20% de combien? Quand il passe à 20% d'un milliard, ça vous fait plus ou moins 200 millions. Les 200 millions peuvent-ils résoudre le problème de l'éducation en République démocratique?
Peut-être les conséquences, si on augmente le budget, les conséquences qui vont se faire ressentir, vous les avez déjà mesurées?
Ah oui, oui, oui. Dans un premier temps, nous avons plusieurs problèmes. Le problème, c'est au niveau de l'enseignant. Il faut qu'on fasse tout pour que l'enseignant soit à mesure de donner suffisamment le cours aux élèves. Il faut que les infrastructures aussi répondent. Il faut suivre la formation de cet enseignant. Il faut mettre l'élève, permettre la prise en charge de certains problèmes, de certaines questions, problèmes de fonctionnement, problèmes d'infrastructure, problèmes de forme. Tous ces problèmes doivent être pris en charge aussi par l'État pour essayer de libérer la charge, la poche du parent.
Le grand témoin.
C'est le ministre Makare Mwangu, vous avez parlé d'infrastructure tout à l'heure et c'est ça la question d'un auditeur qui nous écoute en Mbandaka.
Bokembawa est là en Mbandaka. Que pense le gouvernement central de l'État dans lequel se trouve l'école? L'école est délabrée, il y a le vieillissement du bâtiment, nous étudions à même le sol, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de tableaux, nous écrivons même avec des morceaux de pirogue.
Voilà, ça c'est un problème concret. Alors de façon quantitative, le gouvernement va construire combien d'écoles, va donner combien de bancs dans cette période?
Non, ne me posez pas la question aussi quantitative possible parce que je ne suis pas en mesure de vous donner les chiffres aujourd'hui. Je sais que nous sommes en train de réfléchir profondément sur l'approche que nous pouvons avoir pour résoudre ce problème très grave de l'enseignement de l'éducation. Parce que, vous voyez, nous avons plus ou moins 20 000 écoles. 20 000 écoles. Pour réhabiliter une école, minimum qu'on peut demander, c'est plus ou moins 30 000 $ américains. Faites des calculs, vous verrez si c'est possible qu'on arrive à réhabiliter ces écoles en utilisant les voies classiques. Nous sommes en train de réfléchir avec les ministères des TPI, avec tous nos partenaires, pour qu'on voit quel type d'approche impliquant les communautés, la participation des communautés de base, pour qu'on arrive à réhabiliter le plus grand nombre ou construire un plus grand nombre d'écoles.
Alors, Mbandaka, toujours, il y a une deuxième question.
Mungé Tamakoule, il fait beaucoup de temps que les enseignants ont été promis des inspecteurs et jusque là, ils ne sont pas encore payés au rang des inspecteurs. Nous voulons savoir quelle est la politique de ce gouvernement de la Troisième République sur le plan salarial et l'uniformité des salaires dans toutes les provinces et dans toutes les villes du pays.
Voilà, le problème des statuts de certains fonctionnaires de l'éducation et évidemment le problème d'uniformité des salaires, monsieur le ministre.
Nous organisons à partir du 26, voilà, du 26 avril, un autre système de calcul des grades et de paiement des enseignants. Je crois qu'ils vont se retrouver, ça sera quelque chose, une première, hein, petit à petit avec le moyen que le gouvernement pourra mettre en place au secteur de l'éducation pour améliorer le
coût. Un nouveau système de calcul, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire qu'on va plus ou moins stabiliser la fonction enseignante. Et nous commençons notre séminaire dans quelques jours.
Alors, stabiliser la fonction enseignante, peut-être que ça ne se comprend pas très bien.
C'est-à-dire que la carrière enseignante n'était pas sécurisée. Aujourd'hui, l'enseignant n'est pas protégé par les statuts. Il n'y a pas un statut qui protège suffisamment l'enseignant. Nous allons maintenant réfléchir à partir de ça. Ça sera un séminaire atelier à partir de 26. On va essayer d'entrer en profondeur de la question pour qu'on trouve une nouvelle manière de titulariser les enseignants. Et je crois qu'ils seront très très contents. Nous attendons plus ou moins 300 délégués à travers toute la République et ils vont rentrer à partir du mois de mai, juin. Je crois que les choses vont aller pour le mieux.
Alors là, vous parlez de la sécurité peut-être juridique, mais est-ce qu'il s'agit de la sécurité financière aussi?
Oui, bien sûr, il y aura un plus sur leur salaire.
En plus,
il y aura une augmentation légère. Je ne sais pas, je ne peux pas donner pour le moment le montant parce que le budget n'est pas encore disponible. Mais tout compte fait, il y aura une augmentation au niveau de leur salaire cette année déjà.
Est-ce que cette augmentation aura des conséquences sur les types, c'est-à-dire que les parents ne vont plus payer les frais d'intervention?
Ça c'est un autre problème pour lequel nous sommes en train de réfléchir profondément aussi avec nos partenaires.
Alors une autre question, mais cette fois-ci, elle nous vient de Kalemie au Katanga.
Je m'appelle Justin et j'habite à Lévis. Monsieur le ministre, je voudrais savoir si les écoles privées doivent continuer à verser les frais de fonctionnement aux autorités de l'État, notamment la division, la sous-division, le coordinateur, ainsi de suite. Ma deuxième préoccupation, quand l'État commencera à payer ces écoles, est-ce que les autorités de la division auront encore une main mise sur les écoles privées?
Voilà encore une question, je pense, qui vous intéresse beaucoup.
Ah oui, oui, pourquoi? Bon, l'enseignement, il est uni. C'est les normes partent du gouvernement, donc on n'a pas à dire que l'enseignement privé, c'est un problème de gestion. Mais en gérant, ils doivent tenir compte des normes qui sont prescrites par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire.
Alors, est-ce que ils vont continuer à faire payer aux enfants si la situation se stabilise?
C'est une école privée. Et comme c'est une école privée, il a obtenu son agrément. En tant qu'école privée, oui, ils vont continuer à payer comme une école privée. Hein, donc la loi cadre est assez claire là-dessus. Mais c'est au niveau de l'enseignement, au niveau du programme scolaire. Là, c'est, comme j'ai dit, en ce qui concerne les normes, c'est un problème qui concerne le ministère.
Voilà, il y a un mot qui est devenu très célèbre au niveau des enseignants, Mboudi. Ça restait toujours un problème. Mboudi, enseignant, ministre, vous êtes là. Alors, quelle est votre réponse par rapport à ça? Vous allez tenir compte de ce contrat ou pas?
Bon, je ne peux qu'emprunter la bouche du Premier ministre qui a dit que peut-être qu'on peut aller au-delà de Mboudi. Mais je n'aime pas beaucoup qu'on sente cette question. C'est une question qui concerne tout le gouvernement, pas seulement le ministère de l'EPST.
Nous avons parlé aussi des élèves qui sont finalistes et qui vont présenter les examens d'État. Dans quelques villes, il y a des frais qu'ils doivent payer, mais parfois c'est 5 000, mais on leur exige 10 000. Par exemple, à Kikuit, ils devaient payer 13 000, ils ont payé 20 000. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'uniformiser aussi dans ce domaine-là?
Oui, c'est une réglementation. Nous attendons qu'on voit, nous sommes en train de récolter tous les rapports que les délégués nous ramènent de l'ensemble du pays. Les frais sont fixés par un arrêté du gouverneur de province. Et nous allons voir dans quelle mesure, pour l'année prochaine, comment on peut établir même un seuil que même les gouverneurs et les autres ne peuvent pas dépasser pour alléger la tâche des parents.
Le grand témoin.
Avec le ministre Makaire Mwangu de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, il nous reste une minute pour clore cet entretien. Est-ce que monsieur le ministre accepterait notre invitation dans une année?
Pourquoi pas? Je suis là pour vous. Surtout que je suis en train de demander à ce qu'on établisse un partenariat avec la presse pour créer ce que j'appelle une conscience nationale autour des problèmes de l'éducation. Voilà. Parce que le développement de ce pays ne partira pas si nous n'arrivons pas à réserver l'importance, la priorité à l'éducation. Je suis content que le chef de l'État ait trouvé que l'éducation, c'est une priorité, un pilier de ces priorités.
Alors, M. Makaire Mwangu, si nous vous retrouvons dans une année, qu'aurez-vous fait de concret pour le bonheur des enseignants, des élèves et des parents dans 12 mois?
Dans 12 mois, je n'ai pas quelque chose d'assez précis. Je vous dis tout simplement que nous allons nous retrouver dans 12 mois. Et à ce moment-là, je vous demande de faire un état des lieux aujourd'hui et demain vous allez comparer.
Mais faites-nous une promesse quand même, monsieur le ministre.
Une promesse, il y a déjà une promesse que j'ai faite, c'est qu'en ce qui concerne l'examen d'État, il n'y aura plus de complaisance.
Il n'y aura plus de complaisance, c'est-à-dire au niveau de la correction, on va
au niveau de la correction, il n'y aura pas de complaisance, le diplôme sera mérité.
Grand témoin qui recevait Makar Mwangu, ministre congolais de l'EPSP. Nous le disons merci d'être venu.
Merci beaucoup, je remercie beaucoup votre équipe, elle est très gentille, je suis très très content, merci. Continuez comme ça, la nation sera très reconnaissante.
L'équipe de production des grands témoins Guy Roger Nyampala, Alain Irung et Sylvain Baougueré vous fixent rendez-vous chaque samedi et dimanche aux mêmes heures, mais au Capi, week-end matin continue. Salut et à la prochaine.